chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
Bonjour et bienvenue sur Attitude, et comme chaque fin de semaine, c'est votre émission de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême, avec Enrico dans le studio, qui va nous présenter nos invités de cette semaine. Bonjour Enrico.
Salut mon lapin, tu vas bien ?
Ça va.
Ça va, tranquille. Tu voulais pas me dire bonjour, c'est pour ça que je me suis permis de te laisser un blanc. En parlant de blanc... j'avais envie de, et elles se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait du, non. On va redevenir sérieux. Une émission classique avec des invités classiques qui viennent tous les jours, qui viennent régulièrement, qui viennent souvent, qui sont là pour nous faire découvrir cette fois-ci, non pas forcément un agenda, non pas forcément des temps forts qu'il y a sur la brasserie, mais vraiment pour nous parler de ce que l'on peut venir découvrir quand on vient visiter la brasserie La Débauche. On est comme d'habitude avec Héloïse. Salut Héloïse.
Salut tout le monde.
Et tu me fais pas de chanson. Et Loana.
Salut, salut.
Salut. Vous êtes là, bien sûr, comme d'habitude, pour nous parler de la brasserie La Débauche, la plus grande brasserie au monde de bière.
Non, mais
tu m'as demandé de l'identifier. C'est l'une des plus belles de tous les temps.
C'est vrai. En toute objectivité.
Et en toute modestie.
Exactement.
On est quand même dans la cream de la cream. On est d'accord.
Incroyable, hein. Cet accent.
Ouais, je sais. On ne fait pas trop la maline avec ton accent anglais. C'est vrai que je ne t'ai jamais entendu parler anglais. Mais Héloïse, ton anglais est-il soutenu ou pas?
Oui, mon anglais est soutenu. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est qu'on la fasse en anglais.
Moi, je serais pas capable. Je pense que toutes les deux, vous êtes capables. Moi, je suis pas capable. Brasserie La Débauche, redevenons sérieux. Née en 2013, depuis maintenant donc 11 ans, ça fera 11 ans. Plus de 10 ans que cette brasserie est sur Angoulême. Elle est depuis maintenant quelques années rue des Lignes. Ça va maintenant faire 5 ans, 6 ans.
Oui, c'est ça, 5-6 ans.
5-6 ans, si je dis pas de bêtises. Ce qui a permis de mettre en place tout un système. Bien sûr, vous avez le taproom pour les gens qui veulent venir boire régulièrement. On vous a déjà invité également à des différentes journées thématiques que vous proposez souvent le samedi après-midi. Un festival maintenant qui a déjà 2 ans. Je ne sais pas si il sera là l'année prochaine.
Non, pas pour cette année, peut-être la prochaine.
Voilà, donc ça c'est important, des gros moments pour venir découvrir. Et surtout une brasserie que l'on peut visiter. Ça c'est hyper important. Expliquez-nous un peu comment vous êtes venu déjà l'idée de vouloir faire visiter la brasserie. C'est assez rare qu'on visite des brasseries... Elle me fait la moulonne. C'est-à-dire qu'elle en a déjà fait au moins 250.
Ça dépend les secteurs. Après, ici, il y a beaucoup moins de brasseries, par exemple, que dans le nord. Mais dans le nord de la France, le tourisme brassicole est bien développé depuis plus longtemps, on va dire. Et après, en Charente, on a beaucoup le secteur des spiritueux, les maisons de cognac qui font des visites guidées aussi. Et nous, en fait, ça s'inscrivait aussi dans notre activité de faire découvrir ce savoir-faire sur place, en fait, comme on fait la bière à la brasserie directement. Donc,
Alors, c'est vous qui avez eu l'idée ou c'est comme d'habitude une envie collégiale de toute l'équipe? Parce que je sais que vous marchez beaucoup à ça.
Je pense que c'est né d'une envie collégiale et puis aussi c'est né quand on est entré dans ce nouveau lieu, du coup rue des Lignes, qui nous a permis d'accueillir du public vraiment, puisque là où on était avant, on n'avait pas de taproom, c'était juste un lieu de production, donc déjà il était plus fermé sur lui-même. Là, le lieu de production, on le voit quand on est dans la taproom, donc c'est un peu dommage de pas l'ouvrir.
Ouais, c'est que vous, c'est même pas cassé pour que les gens comprennent, il n'y a vraiment pas de barrière entre le site de...
Il y a une grande vitre, quoi.
Voilà, mais on la voit, on peut voir les gens travailler, on peut voir les gens continuer à travailler tout au long de la journée. C'est ça aussi qui peut être assez étonnant pour les gens qui viennent boire un verre chez vous.
Bah, c'est ça, quand on vient prendre un verre pendant la semaine, on voit les feux des cuves allumées, on sent les odeurs, on entend les bruits, on voit toute la fumée partir, donc c'est pour ça que c'est important d'ouvrir le week-end pour les personnes qui sont là la semaine et puis pour les touristes aussi. Comme disait Héloïse, le tourisme brassicole se développe de plus en plus. Il existe beaucoup de randonnées autour de ça. Enfin, il y a pas mal de programmes. Et puis, c'est important pour les personnes aussi qui apprécient la brasserie et qui viennent en vacances dans la région d'Angoulême pour découvrir aussi notre brasserie, de pouvoir voir le lieu de production.
aller un peu plus loin et découvrir comment on fait la bière. On est sur des groupes de combien de personnes? Maximum, on peut accueillir maximum.
Maximum, ça peut être jusque 20, je pense. Ouais. Après, ouais. cas exceptionnel, je pense que.
Oui, vous pouvez faire une petite dérogation sur le plus 1, plus 2, si le groupe venait se caler un peu plus, ou sinon, voilà, pour un groupe pro, là, sur le coup, vous pouvez vraiment faire un truc spécial, mais là, ça s'organise. Mais à l'individuel, vous essayez de pas dépasser 20 pour pouvoir être à l'aise avec
ça.
Le groupe. Hein.
Que tout le monde puisse apprécier sa visite aussi.
Exactement. On va parler de. En fait, je vous avais invité aussi pour ça parce que on vous invite vraiment souvent pour découvrir plein de choses. Mais là, je voulais que vous nous donniez une idée de comment ça se déroule ou comment se déroule une visite. J'adore ce mot brassicole. j'aurais dû naître lillois. Je ne comprends pas que je sois né dans ce pays qui boit de la bière pas très bonne. Et non, on est tous d'accord. Tout le monde s'enorgueillit de la Superbock.
Et on a fait une collab avec une brasserie portugaise, à la brasserie Letra.
Ah, bah écoute, bah là sur le coup c'est toi qui m'apprends un truc, je ne connais même pas cette brasserie, mais voilà, buvez de la bonne bière et voilà. Alors comment ça se déroule tout simplement?
Alors déjà les visites se font sur réservation, donc uniquement le samedi à partir de 16h. Vous nous contactez, que ce soit sur les réseaux sociaux, on a un numéro de téléphone aussi pour les visites. Donc le samedi vous venez, un peu à l'avance quoi, 15h30, vous êtes accueillis au bar. Il y a Séverine du coup qui s'occupe des visites, qui vous accueille et qui vous explique un peu comment va se passer la visite. Et en fait, l'unité de production est vraiment attenant au bar. Donc il vous suffit juste de traverser le bar et vous arrivez au niveau des cuves de brassage. Donc là, vous allez voir, il y a plusieurs instruments de cuisine, on va dire.
C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Maintenant, comment vous faites la petite j'ai perdu le mot. La
popote.
La petite popote. Merci beaucoup, Johanna. La petite popote, ça se déroule comment? Les cuves fonctionnent constamment ou pas?
En fait, c'est comme une recette. Donc, une bière va être faite. Ça va prendre 8 heures.
X temps, et puis voilà.
Et, et voilà, alors on commence avec l'ingrédient principal, le malt, qui va être concassé. Donc, on ouvre en fait
la graine.
La graine, exactement. Et ce malt va être mis dans une cuve d'ébullition. D'empattage.
T'inquiète pas, t'as le droit de nous dire des bêtises. Moi, je suis pas capable de te reprendre. Mais c'est bien que tu t'auto-reprennes toi-même.
Donc,
d'empattage.
Le malt va être mis dans l'eau et mis en ébullition, va être chauffé pour pouvoir recueillir l'amidon qui se trouve dans le grain. Et ensuite, donc, ce mélange qu'on a fait chauffer, on va le mettre dans une cuve de filtration. Donc, pour séparer le solide du liquide, on va enlever tout ce qui est résidu de céréales et on va garder le mou. Donc, du coup, le mélange sucré, finalement, en fait, c'est l'amidon qui s'est mis dans l'eau et c'est ce qu'on va garder. Ensuite, on va le mettre dans une autre cuve, la cuve d'ébullition, dans laquelle, du coup, ce mou va être chauffé encore une fois. Et dedans, on va mettre le houblon. Donc, en fait, c'est comme une infusion, c'est comme on met un gros sachet de thé, et en fait, c'est le houblon.
Elle est géniale, mais au moins, on comprend. On met un gros sachet de thé de...
C'est ça, en fait, c'est bien aussi de simplifier un peu le langage.
C'est que les gens, je pense qu'à l'antenne, les gens comprennent mieux quand on leur met vraiment cette image d'un coup d'un seul. Moi, je l'ai eu, l'image du gros sachet de thé géant de 50 kilos qui...
Voilà, c'est exactement ça.
On va prendre du thé, mais du thé au houblon. Non, mais c'est génial, alors. C'est le mélange des deux qui va permettre la fermentation. Oui, il y a encore un autre procédé.
Non, il y a encore un autre procédé. En fait, le houblon va à la fois soit être amérisant, soit apporter des arômes en fait à la bière. Donc, ça soit des arômes de fruits exotiques, des houblons. On a vraiment une palette aromatique énorme.
Et c'est là où je te coupe. Le houblon a une palette aromatique énorme. On va faire une petite coupure musicale et publicitaire et on va revenir tout de suite pour continuer à parler de cette palette aromatique qui va donner la spécificité à chacune des bières que vous allez travailler et que vous allez proposer en rajoutant peut-être encore après d'autres ingrédients pour pouvoir les parfumer. Petite coupure musicale et publicitaire et on continue avec la visite virtuelle faite par Héloïse et Loana. Moi je trouve ça génial, j'ai soif. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai soif. Petite coupure musicale et publicitaire et on continue avec nos amis Loana et Héloïse de la brasserie La Débauche.
chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
De retour sur Attitude, comme chaque fin de semaine, on est là avec Enrico pour vous présenter des invités et aussi le pourquoi de ces invités que tu vas d'ailleurs rappeler à nos chers auditeurs.
Exactement, des éléments perturbateurs qui disent du mal de moi hors antenne, mais qui me font rire. C'est pour ça que je les invite tout le temps, parce que j'ai l'impression en fait de ne pas travailler quand je suis avec elles. Et les auditeurs doivent peut-être le ressentir également, et j'espère qu'ils le ressentent. Et c'est ce que vous ressentirez quand vous irez à la débauche pour venir découvrir la visite. Ça sera pas forcément ni Héloïse ni Eloana qui feront la visite, ça sera
Séverine
qui vous fera découvrir de façon tout aussi drôle que les filles que je vous invite à aller rencontrer régulièrement sur le taproom. Vous y êtes régulièrement, vous servez un peu?
Non.
Même pas?
Non, nous on est derrière, on est accoudés au bar.
elles font des one man shows des fois de temps en temps, vous pouvez les retrouver bien sûr sur certaines scènes pour traiter les gens de gros. Et on continue, on redevient sérieux, on parlait bien sûr de la palette aromatique de l'houblon que tu rajoutes, hein, c'est ça? Non, je dis pas de bêtises.
Oui, le houblon.
Le gros sachet de thé, c'est le houblon.
C'est le houblon qu'on met lors de la période d'ébullition.
Exactement, période d'ébullition. Quand tu parlais de différentes palettes aromatiques, ça va vraiment du, je vais dire peut-être des bêtises, hein, chocolat, café. Non, pas du tout. Herbacées, thé.
Fruité. Fruits rouges.
Fleurs blanches. Ce genre de choses, ok. D'accord.
Jaune. Mais au final, comme le raisin, il y a différents cépages, et même si tu mets un cépage d'une région ou dans une autre, il aura des saveurs différentes, parce qu'en fait, le terroir, la terre dans laquelle il pousse, va apporter des saveurs différentes.
D'accord.
Le soleil, l'exposition, et ben le houblon, c'est exactement pareil. Il y en a dans le monde entier. Et tu retrouveras jamais, tu peux planter
la même variété dans deux endroits différents.
Et ça n'aura pas les mêmes saveurs.
Ouais. D'accord, donc ça, ouais, c'est hyper. Voilà, une belle image pour que les gens comprennent pourquoi le houblon peut avoir vraiment cette variété de goût et de proposition. On continue après l'ébullition, qu'est-ce qu'on fait?
Après l'ébullition, ce liquide va partir dans un fermenteur. Et c'est là qu'on va ajouter les petites levures. Et qui vont faire tout le taf en fait.
Voilà, c'est clair.
Qui vont créer la bière.
Pas des grosses levures, on est tous d'accord. Des petites levures. Voilà, les grosses n'ont pas le droit. Les petites,
mais petites
droit.
Jeunes levures.
Tu es immonde. Voilà. donc je n'ai pas le droit de rentrer dans cette cuve.
Et du coup, ces petites ou grosses levures.
Ah, t'es mignon.
Elles vont manger les sucres fermenticides du coup et créer l'alcool. Et aussi
la création se fait à ce moment-là.
Ouais, tout à fait.
Ok. Et alors je vais être un truc bête, c'est que là pour l'instant, est-ce que c'est déjà gazéifié?
Oui, il y a une gazéification naturelle qui se produit parce qu'en fait les levures c'est des petits organismes qui mangent. Et du coup, elles font des caca et elles proutent. Et du coup, elles font caca de l'alcool et elles proutent du CO2. Ouais. Donc c'est pour ça que...
Non, mais on a l'air de plaisanter comme ça, mais c'est hyper bien de simplifier le propos pour que les gens comprennent. Parce que je pense que là, même un enfant en CE2 comprend le principe de « je mange ». Je fais de l'alcool.
Non, il va comprendre qu'il ne vaut plus boire de bière parce que...
Non, mais je trouve que la métaphore est super, super intéressante parce que d'un coup d'un seul, on comprend le principe même. Après, ce qui m'embête plus, c'est à quel moment vous pouvez mettre en bouteille ou en canette et à quel moment ça... Voilà. C'est la suite ou pas, où j'ai loupé une étape?
Oui, non, c'est la suite. C'est après, la bière va rester en fermenteur un certain nombre de temps, que ce soit 2 semaines ou plus dans des... si c'est des bières de garde ou des choses comme ça, ça dépend quel style de bière on fait et ce qu'on attendait, le taux d'alcool, la densité, qui sont tout le temps vérifiés. Enfin, voilà. Ensuite.
Et puis toutes les levures ne travaillent pas à la même vitesse aussi. Voilà.
D'accord.
Selon la température. Il y en a qui sont un peu plus lentes, d'autres plus rapides, ouais.
Donc tout ça, bien sûr, c'est expliqué. On raconte tout ça pendant la visite.
Et c'est encore plus parlant parce que du coup on voit le matériel sur place. Les fermenteurs, c'est pas du tout la même forme que les cuves, par exemple.
L'on connaît traditionnelle charentaise, oui.
Tu
parles des cuves traditionnelles charentaises.
Oui, ouais, par exemple.
Moi, je parle de celles que je connais, mais voilà, on n'est pas forcément voilà. Ça va être vraiment différent. Une question. Donc, comment on passe maintenant de la cuve à la bouteille?
Eh bien, déjà, avant, on a vérifié que la bière avait fini sa fermentation.
Donc ça, il y a une vérification régulière.
C'est ça.
Donc, et vous est jamais arrivé qu'il y ait des soucis ou des...
Ah si. Il nous arrive régulièrement des soucis. Des fois, il y a des bières qui veulent pas travailler. des levures qui veulent pas travailler. Donc, on rajoute un peu de sucre pour essayer de les booster. Et ça marche pas ou ça marche. Des fois, elles travaillent trop. Et du coup, elles produisent trop d'alcool. Et puis, on n'est plus sur les mêmes profils aussi des bières parce que les levures apportent aussi des goûts. Et puis, des fois, c'est des erreurs humaines. Genre, on oublie de fermer un fermenteur. Pendant un week-end, le fermenteur reste ouvert. Là, c'est très, très, très embêtant. Du coup, on a des gros contrôles derrière sanitaires qui sont faits. Même des contrôles de process.
Ouais, parce que ça peut être, ça peut être très dangereux. Okay.
En fait, la bière n'est pas assez forte en alcool pour ne pas être contaminée par des bactéries
ou autres.
Et du coup, on envoie les bières régulièrement en fait en analyse pour vérifier qu'on n'a pas de soucis dans notre brasserie. Pour le coup, là, tout s'était très bien passé. Au final, pas de problème.
Pas de problème. On a mis en bière. Les contrôleurs. Voilà, je l'ai pas fait exprès. C'est bon. Ça arrive.
Vous verrez. Donc on a mis en bière la bière,
la bouteille.
On a mis en bière la bouteille.
Voilà, la bouteille s'est remplie.
Oui, ou la canette.
Et à partir de là, je sais qu'on passe par la partie dégustation.
Tout à fait. Donc en plus, on peut voir aussi la partie encanage, embouteillage, parce que tout est chez nous. Donc ça aussi, c'est marrant à voir.
Ouais, c'est hyper... Non, mais c'est surtout rare que ce soit ouvert. Là, sur le coup, pour parler des spiritueux, il y a très, très peu de maisons qui montrent l'embouteillage ou... Alors, sur le coup, l'encanettage, c'est comme ça que...
L'encanage.
L'encanage, voilà, que je ne connaissais pas. Et donc, voilà, non, c'est un process qui moi, me fait triper. Après, je ne sais pas si l'humain est beaucoup derrière... les machines.
Ah, si, ouais. Ah, oui.
Donc ouais, il y a
une sacrée équipe.
Oui, il y a une sacrée équipe qui travaille et qui contrôle au maximum tout le process.
C'est ça, et c'est assez important aussi de le rappeler, c'est que une brasserie, c'est pas seulement un brasseur qui fait sa bière et qui met derrière en bouteille, c'est qu'en fait, il y a vraiment tout un panel de professionnels avec des métiers et des responsabilités très différentes. Il y a des opératrices et des opérateurs de ligne, il y a des personnes qui sont en charge du conditionnement, il y a des personnes qui sont en charge du suivi, de la maintenance des machines. Mais ça va de ça où c'est très technique, très autour du produit. Mais après, on a aussi des personnes qui sont en charge des approvisionnements des matières premières jusqu'à de la comptabilité, en passant par la communication commerciale. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde.
Vous êtes combien ?
On est 25.
Ah ouais, ok.
Et il y a du coup une petite dizaine de personnes qui travaillent vraiment à l'espace production.
D'accord, pur. Donc voilà, qui sont vraiment...
Celui que vous visitez.
Voilà, 100% de leur temps de travail est dédié à ça, que ça soit les process, les différentes phases et les erreurs qui peuvent arriver, puisqu'il arrive quelques erreurs de temps en temps.
De temps en temps, il arrive des petites erreurs et de temps en temps, il arrive des erreurs qu'on fait aussi volontairement et des petits tests, choses comme ça, tu vois.
Moi, j'en fais que... test. des grands malades.
Parce que là, du coup, on a expliqué un peu un schéma traditionnel pour une bière très classique, mais au final, ce qui fait la particularité de la débauche, c'est qu'on innove. Et tout au long du processus que Héloïse a expliqué, on vient apporter notre touche un peu de fun. Et on rajoute des trucs, on enlève des trucs. Enfin, on rajoute plutôt, souvent.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu sur votre site une nouvelle bière. J'ai vu ça en... Je veux pas dire de bêtises, une nouvelle bière. J'ai vu un cake dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ?
La Banoffee Pie ?
Voilà, ouais. C'est ça. Et c'est quoi, ça ?
C'est un Baltic Porter qui a été brassé.
J'aime quand tu me parles de ça. Un Baltic Porter, je te laisse parler, vas-y.
Un Baltic Porter qui est vieilli en barrique et du coup qui a été aromatisé pour rappeler les goûts d'un Banoffee Pie en fait. Mais voilà, on s'amuse vraiment. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'étape de l'empattage. Il y a quelques mois, on a fait une bière au popcorn. Les brasseurs se sont amusés à ouvrir 1000 paquets de pop-corn pour verser dans la cuve d'empâtage. Donc aujourd'hui, il ne faut plus leur parler de pop-corn. Mais
vous êtes des grands malades. Vous êtes l'équipe la plus folle que je connaisse au monde.
On a fait une bière avec de l'agar-agar parce qu'on voulait avoir une bière qui fasse un peu gelato. Du coup, lui donner un peu une consistance. Au final, on s'est retrouvé avec un gros flambi dans un fermenteur. Vraiment, ça faisait vraiment l'effet des cakes jelly là, des Anglais.
Voilà.
C'est ça aussi qui est drôle, c'est que des fois, on fait des bières qui sont complètement what the fuck et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre travail, c'est de faire des produits qui soient bons. De bonne qualité, qui nous plaisent, mais aussi nous de trouver du plaisir.
Oui, et puis l'idée de tester, même si c'est foiré, c'est pas grave. On a essayé, ça a pas marché. On recommence autre chose, et puis voilà. Mais vous tentez quoi. Vous êtes un peu fou, mais dans le bon sens du terme. C'est une folie contrôlée, et c'est ce qu'on voit. Et puis il y aura le long du parcours et de la visite, il y a plein d'anecdotes qui sont proposées. Ça, c'est hyper important. Donc on peut vraiment poser des questions également. Si
tout
à un moment
fait.
On a un doute. On peut simplifier le propos quand on a des plus jeunes qui sont présents, et on finit par trois dégustations
de bières au style différent expliquées
également, comme si on faisait une dégustation pure et dure,
c'est ça.
Pour que les gens puissent vraiment découvrir leur goût d'ailleurs, puisque après c'est aussi au goût de chacun que l'on peut on peut retrouver son plaisir. Moi je suis plutôt brune, tu es plutôt...
Comme toi, je suis plutôt stout aussi.
Et plutôt bière acidulée.
Toi, plutôt bière acidulée.
Oui.
Comme tous les gens du Nord.
Je sais pas, je pense pas.
Nous, on est plus... on a besoin de manger pendant qu'on boit. C'est important.
On est des bons vivants.
Exactement. On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, les filles, avant de se quitter? Est-ce que vous voulez qu'on donne des infos rapides?
On peut peut-être redonner le numéro de téléphone pour réserver les visites.
Si je dis pas de bêtises, le numéro de téléphone, c'est le 06 61 30 94 60. Je me suis pas trompé ?
Non, c'est bon.
06 61 30 94 60 pour tous les gens qui voudraient venir découvrir la visite qui se déroule le samedi après-midi à partir de 14h.
Non, à partir de 16h.
À partir de 16h. Jamais tu me contredis en direct. Mais tu as raison, à partir de 16h, on arrive une petite demi-heure avant si on le souhaite, pour pouvoir déjà boire une petite bière avant de commencer, et pour finir avec une petite bière quand on aura fini la visite. On vous remercie les filles, comme d'habitude, c'est un plaisir d'être avec vous. On va être obligé de se quitter, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à toi Loana, merci à toi Héloïse, et on se retrouve bientôt comme d'habitude,
bah oui.
Vu qu'on se voit 4-5 fois dans l'année, c'est la base.
Exactement. Merci à toi aussi, Enrico. Merci à nos invités de leur venue dans les studios d'Attitude. Vous retrouverez bien évidemment dès cet après-midi le podcast de cette émission sur le site internet de Radio Attitude et sur sa page Facebook. Excellente fin de semaine. Très bon week-end à vous tous et à la semaine prochaine.